Non, je veux que ceux qui sont sortis. Oui, on commence d'autant plus qu'on nous a imposé quelques minutes de retard, que bien entendu nous rattraperons à partir de 15 heures en leur faisant subir le sort qu'elles viennent de nous faire subir. Donc, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui ces premiers dialogues auteurs-éditeurs au Parlement européen. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs et en particulier Anne Berman.
Traduction français, anglais, allemand.
Oui, vous avez tout à fait la traduction et vous savez bien, je dis comme Michel Barnier, au nom de la diversité culturelle, je continue à parler en français. Alors, je remercie aussi pour leur participation les auteurs Val McDermin, qui est ici, Raphaël Seligman, qui est là, et Daniel Pennac, qui est ici. Je salue également, bien entendu, leurs éditeurs, Ursula Mackenzie, René Strien et Antoine Gallimard. Enfin, je vous remercie de votre présence ici et de l'intérêt que vous portez au sort du livre et donc à l'édition, et comme vous l'avez vu, à l'édition à l'ère numérique. Alors, pourquoi la question de l'édition à l'ère numérique se pose-t-elle ? J'ai trois esquisses de réponse. D'abord parce que Internet a modifié les moyens d'appropriation des biens culturels en ligne. Comme vous le savez, c'est un phénomène qui a d'abord touché la musique, avec les conséquences que nous connaissons, le peer-to-peer, le piratage, etc. Et aujourd'hui, on n'achète plus, on télécharge et on partage. Donc, ça, c'est la première difficulté. Le second point que j'ai identifié, c'est qu'Internet permet carrément, d'ailleurs, l'interactivité entre celui qui crée et aujourd'hui, n'importe qui, un texte sur un blog, on poste une chansonnette en vidéo sur YouTube et interactivité avec celui qui reçoit le contenu à travers les réseaux sociaux, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un véritable jeu de rôle qui s'est instauré entre les internautes et ils y ont pris goût. Si bien que désormais, chacun vit avec l'illusion qu'un jour, il est écrivain, il est chanteur, il est musicien, il est journaliste, et de l'autre côté, chacun se croit habilité à juger, ou à tout le moins à donner son avis. Donc ça, c'est la deuxième difficulté que j'ai identifiée. Et la troisième, vous le savez, c'est qu'il s'est développé sur Internet une véritable idéologie à trois branches, liberté, gratuité, égalité. Donc, ce serait un outil de démocratisation de la culture. Et aujourd'hui, et c'est là que je vais en arriver aux éditeurs, aujourd'hui, les internautes se disent, mais pourquoi ne pas raccourcir le circuit, se passer des intermédiaires, aller directement du producteur au consommateur et en prime sans rien payer, ce qui est encore mieux. Sauf que la culture, pour moi et pour vous qui êtes là, la culture n'est pas un bien de consommation comme les autres. Aujourd'hui, l'offre est devenue pléthorique et avec cette surabondance, non seulement ce ne sont plus les intermédiaires que nous connaissons, mais d'autres intermédiaires ont surgi, qui ne sont pas forcément qualifiés, et sauf encore que les industries culturelles ont besoin d'investir pour la production, pour la promotion et pour la diffusion
de contenu de qualité qu'ils ont sélectionné. Et j'en arrive ici à dire pourquoi l'éditeur va à l'encontre de cette belle idéologie des internautes, c'est que l'éditeur, il ose opérer une sélection, ah mais c'est terrible, tout le monde n'est pas écrivain, et en plus, il est cessionnaire des droits qu'il exploite, donc, bien entendu, il est réputé s'enrichir au détriment de l'auteur. C'est la première interpellation que je lance à nos auteurs et à nos éditeurs. La deuxième question que je voudrais mettre sur la table, étant entendu que ce ne sera pas exhaustif et qu'ils aborderont certainement d'autres questions, la deuxième question pour moi, c'est l'explosion du livre numérique, puisque les supports sont de plus en plus perfectionnés dans le marché des tablettes numériques. Alors, j'ai les chiffres de mai 2011 pour l'Association des éditeurs américains, c'est 202,3% de croissance. C'est extraordinaire. Je suis évidemment convaincue que l'Europe suivra. Et je sais également, y compris en Europe, que d'autres, de nouvelles formes de livres numériques existent, comme les livres enrichis, et je sais qu'il y a dans cette salle des personnes qui représentent cette forme nouvelle de livres numériques. Donc, les questions, la deuxième question que j'ai envie de poser, et qui sera peut-être, qui interrogera peut-être nos auteurs et nos éditeurs, c'est que penser du nouveau système éditorial de financement participatif tel que, par exemple, nous n'en avons qu'un en France, Bernard Fixot l'a lancé avec My Major Company Books. C'est la transposition, en fait, de systèmes qui existaient dans le secteur de la musique et qui maintenant vient dans le secteur du livre où finalement les internautes choisissent un auteur dans un choix qui leur est évidemment proposé et misent sur lui, c'est-à-dire que c'est un autre système éditorial. Et dès lors, je vous dis, c'est la deuxième question, avec l'explosion du livre numérique, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le métier d'éditeur, et même d'ailleurs, j'irai jusque-là, même celui d'auteur, comment vont-ils s'adapter à cette évolution technologique? Alors, à cet égard, je voudrais indiquer que j'ai pris l'initiative de demander un débat en plénière avec la Commission européenne au sujet de la TVA du livre numérique, dont on sait actuellement en Europe qu'elle est discriminatoire par rapport au livre physique. Je donne comme élément d'information qu'aux États-Unis et même au Brésil, les livres papier et les livres numériques ne sont assujettis à aucune TVA. Au Japon, 5%. Donc, là, il y a une véritable question et je sais qu'il y sera répondu dans les débats. Alors, la dernière question que je veux mettre sous la table, mais sans exiger non plus qu'on m'y réponde, c'est la question de la numérisation. Et là, je serais heureuse d'avoir l'opinion des éditeurs sur, par exemple, l'accord qui a été conclu entre Hachette et Google en juillet dernier, et même les éditeurs comme La Martinière qui suivent cette démarche, donc démarche qui nous interroge. Ce sont les questions que je pose. Je sais qu'il sera répondu à beaucoup d'autres. Je n'ai pas voulu être exhaustive. C'est trop difficile de couvrir tous les problèmes qui sont soulevés par l'édition à l'ère numérique. Et je crois en revanche que nous, législateurs européens, et je reconnais et je les en remercie beaucoup de collègues dans la salle, je crois que nous avons tout à apprendre et que les éditeurs et les auteurs doivent nous éclairer sur ces questions sur lesquelles nous allons devoir légiférer. Je ne vous quitterai pas sans avoir donné la parole à Jacques Toubon. On dit toujours, on ne le présente pas, mais je tiens à rappeler, député de Paris, maire du 13e arrondissement, ministre, député européen de 2004 à 2009, nommé, comme vous le savez, par le président Sarkozy, comme personnalité qualifiée de, je ne le dis pas en abrégé, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, et actuellement encore chargé d'une mission dont je lui laisse le soin de vous révéler l'objet. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Je voudrais remercier beaucoup naturellement Marielle. Je serai ici dans un rôle très neutre de modérateur. Mais il est vrai que si la Fédération européenne des éditeurs, Anne Bergman, et le syndicat national des éditeurs français, qui sont les organisateurs de cette manifestation sous l'autorité de Marielle Gallo, ont demandé d'assurer la modération des débats, c'est parce que je suis très fortement impliqué, je l'étais au Parlement européen et je continue à l'être, dans ces questions qui sont, de manière générale, celles, pour parler le langage moderne, de l'interface entre la culture et le numérique, de l'interface entre la culture et l'Internet. Et en particulier, la question du glissement, de la migration, comme on dit, de l'accès aux livres, du papier, des formes traditionnelles, vers la diffusion en ligne de fichiers numériques. Et en particulier, je suis effectivement directement chargé d'une mission tendant à essayer de convaincre l'ensemble des 27 États membres, puisqu'il s'agit d'une question à l'unanimité, de convaincre l'ensemble des 27 États membres qu'il conviendrait, comme Marielle l'a dit, de mettre une cohérence dans les taux de TVA entre le livre physique en papier, qui dans 24 pays sur 27 bénéficie de taux réduits de TVA, et le livre numérique diffusé en ligne, qui se voit appliquer en vertu de la directive européenne sur la TVA, le taux des services en ligne, c'est-à-dire le taux normal. Et cette mission est en cours, et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous essayons, grâce à la Fédération européenne des éditeurs, de traiter tous ces sujets que Marielle vient d'évoquer sous une forme différente, c'est-à-dire que ce soit à la fois des écrivains, des auteurs et des éditeurs qui s'expriment. Et nous avons choisi trois couples, éditeurs-auteurs, un couple de langue anglaise, un couple de langue allemande et un couple de langue française. Et l'idée étant que chacun d'entre eux puisse à la fois, de manière générale, évoquer ce qu'est le rôle de l'éditeur, comme Marielle l'a dit, comment aujourd'hui le circuit, en quelque sorte, de l'édition et de la distribution doit être ou ne doit pas être mis en cause par les nouvelles technologies. Gaston Gallimard, grand-père d'Antoine, a dit que qu'est-ce que c'est un éditeur ? C'est un commerçant qui a fait un pacte avec l'esprit. Est-ce que cette définition, nous pouvons continuer à l'appliquer et à la pratiquer avec les intervenants actuels sur le marché du livre numérique ? Est-ce que Kindle, c'est un commerçant qui a fait un pacte avec l'esprit ? C'est une bonne question, je pense. Bon. Mais de la même façon, naturellement, est-ce que les éditeurs qui sont ici représentés, pour leurs auteurs, représentent en quelque sorte toujours la même valeur ajoutée, le même caractère irremplaçable dans les nouveaux marchés comme dans les marchés anciens. Voilà simplement ce que nous allons faire. Et nous allons commencer par, à mon avis, un couple explosif qui est celui constitué par Val McDermid, qui est donc un auteur de best-seller, 22 romans policiers, diffusé à plus de 10 millions d'exemplaires, et si j'ai bien compris, qui est l'héroïne, de l'écrivain favori d'un certain nombre de ceux qui sont ici dans cette pièce et qui sont de langue anglaise. Et Val McDermid, j'ajoute, est écossaise, ce qui doit être dit, et elle va dialoguer avec Ursula Mackenzie, qui est à la tête aujourd'hui d'une maison d'édition qui s'appelle Little Brown à Londres, qui est une maison d'édition générale. Je crois qu'en dehors des livres scolaires, Little Brown produit toutes sortes de publications. Et la question qu'elles vont évoquer, c'est justement ce rôle de l'éditeur, et en particulier un sujet qui leur tient à cœur, c'est la diversité de la distribution. Ça veut dire en particulier la pérennité d'un système de vente de livres par des libraires indépendants et aussi divers et répartis sur le territoire que possible. Alors, est-ce que je donne d'abord la parole à Ursula ou d'abord la parole à Val? Val, first. Yes.
So,
Ursula, okay.
Okay, so we have some questions.
Mike.
There we go.
Yeah.
Is that better?
Yeah.
Cool. Okay.
Yeah.
Okay. So we've been asked to talk a bit about the relationship between the author and the publisher. Do we have to get on well together? Does the author have a relationship with an individual, or is it with the publishing house as a whole? And I think personally that you will all enjoy it a lot more, and you will probably be more trusting of what is said if my author, Val McDermid, is the person who talks to you a little bit about that. Val, how do you feel? What is the importance of the relationship with the publisher for you?
Well, there are very many... There are many different aspects of the relationship with a publisher that really matter to an author. But I think, in the first instance, there has to be a relationship of trust. At the heart of the relationship between an author and a publisher is the relationship of trust. To work with an editor, you have to trust that they understand your work, that they understand what you're trying to achieve, that they care about your work. And I think the relationship with a publishing house always works best when the relationship goes beyond the relationship with the editor and you actually have a working relationship with other people in the publishing house. So at Little Brown, for example, I know the sales and marketing people. I know the guy who designs my covers. I know the people in-house who deal directly with accounts, with booksellers. So I feel that I have a relationship with Little Brown where if there's any problems anywhere, any issues anywhere, I know who to go to. But also, if someone does a particularly good job for me, I know who to speak to and who to thank for that. And that makes me feel like I'm part of an organisation. Writing is a very lonely pursuit. You spend most of your time in a small room staring at a computer screen, talking to yourself and listening to the voices in your head. You know, I sometimes think if we didn't actually write it down, we would be in mental hospitals. You know, we live in a world where we create everything that exists. We are God. We talk to ourselves and we hear the voices in our head talking back to us. You know, if it wasn't for being published, we'd be on medication. But there is also a very practical sense about the relationship between a writer and a publisher. For me, when I deliver the first draft of a novel, I know it is not finished. I know it is not perfect.
it is as good as I can make it on the day. It is the best it can be in my hands at that point. I know there are things that are not right with it. I know that it still needs more work. And because I have an editor that I trust, his job is to help me make my book better. Not in a prescriptive way, not in a way where he tells me what I need to do, but in a way where we sit down and we talk, and he points to the places in the book that he thinks work needs to be done. He points out the things that he thinks don't work in the book. And I would say 99% of the time, the things that he points to are the things that I already know are not working. But I need another set of eyes on that work so that we can discuss why it doesn't work, how it doesn't work. And in the course of that discussion, it generally occurs to me how I can fix it and how I can make it better. So without that editorial eye, my books would not be as good as they can be, because it's not just a solo endeavour. You need help, and a good editor will give you help. There's another aspect of the publisher relationship as well. The publisher is my bridge to the reader. The publisher is the person who builds a bridge between my book and the retailers, my book and the readers. They get it out there, they market it, they help with the promotion, they help with the publicity. They do all those things that makes people aware that my book is out there, that exists. It's not all down to me and what I can do on social networking. There's a limit to how much you can do with Facebook and Twitter. And traditionally, the publisher is the person out there whose job it is to say to readers, this book is out here, you will love it, read it. And these days, there's another crucial role that the publisher has to play, and that is the role of protection. The publisher protects me from the thieves who steal my work. People talk about sharing on the internet, but when they say sharing, what they actually mean is, we'll steal your work. We'll take your work and we'll make money from it. I don't see them sharing anything back with me. I always thought sharing was like a two-way street. I give you something, you give me something back. But it seems to me that the people who talk about free access to everything want to take what I create without giving me anything back. I wonder how many of them would be willing to give me the product of their work for nothing. So the publisher now has to spend a lot of time and money chasing down these thieves and telling them to cease and desist from their practice of stealing my work. So that has become an expensive job for publishers, but one that I don't have the resources to do myself. So I need my publisher to do that for me, to protect me also.
Yes, I think that is a very important part, but of course we can do a lot of that. But there will always be persistent infringers, and as Val says, people who are not just stealing for their own personal reading pleasure, but ones who've actually formed a business model and are making a great deal of money out of it. Now, that's where we do need political support to ensure that copyright can be enforced. One other thing I would just like to add on the role of the editor, because I think it is something that actually a lot of people don't, are not really very aware of. I mean, Val has written 25 books. She said to me that when she delivered her most recent one to us, which is fantastic, by the way, that it was only the second time that she had ever been told by her editor that they would publish it exactly as it was. And the last time was in the mid-90s, I think, she was told that. But she's a very experienced writer. And if you think about people who've just written their first novel, why would anybody imagine that someone who has only written one book would write something that was perfect, fully formed? You know, anybody who does anything gets better with practice, and something that, you know, publishing houses have editors who've been working on books for 30 years and who know stuff about how a book can be better constructed, how to have a more satisfactory arc to a story. They might even suggest that if they swap those two chapters round, it would be a more satisfactory read. So there's also, you know, somebody of Val's experience, maybe it's wonderful when they still feel they need the help, because I think the open-mindedness to always want to make your book as good as it possibly can be is really important. But particularly starting out authors really do need some help, and often what an editor does is spots some qualities, some ability to write, some wonderful effort at characterisation, but then there are all sorts of things that are wrong, and it's our job to try and make that book as good as it can possibly be.
I would say that as a writer, if you are ambitious for your work, if you want to become better at your craft, you have to work with somebody who has an understanding of that craft. You know, to go down the route of not having a publisher, no intermediary, is fine if you have no ambition for your work. But many writers do have ambitions for their work. And many readers have ambition for the kind of things that they read. They want to read the best books. They don't want to read just anything that gets chucked out there on a wet Wednesday afternoon because somebody's feeling a bit bored and think they're a writer. I know this is a hard thing to say, and I know it's a hard thing for people to hear. The fact that the internet provides democracy of access does not mean that suddenly, miraculously, we also have a democracy of talent, because we don't.
What about the role of the book dealing of in that aspect for and the bookshops and physical and online?
Well, my feeling is that there is a lot of mystique about e-books and the selling of e-books and our publishers hopelessly behind. No, I think this is great nonsense. We have about 2,500 e-books available. We publish every title that we publish for several years now has always had an e-book simultaneously with the physical edition. It is simply a different channel of distribution. It's a different way of providing people with the same content. Some people want to read it in printed book form. Some people want to read it on an electronic device and are very happy to download it. It's not fundamentally different in any way. The only important thing that matters is the book that is being read by the reader. And how you choose to read it doesn't really matter. But one of the things I would argue is I think it is very important to have a range of outlets for people to buy books in. Particularly in the UK, we're heading quite rapidly towards a lot of online retail, whether of physical books or digital books. And I do worry about the disappearance of ordinary high street bookshops. It's where people can browse. It's where people can first, perhaps, along with libraries, discover a love of books. It's more difficult to browse online. I think people who buy a lot of books online know that they like reading and know what books they want to buy, by and large. And I think the sort of serendipitous choice element, the browsing, the buying something almost by mistake because you quite like the look of the cover, is easier to happen in a bookshop. And I worry that if we go extensively online, we will find that it's a limitation of access for people. So to me, the widest possible variety, the widest possible range of access to books is what we should all desire.
I think there are many countries in Europe that are actually luckier than we are in the UK at the moment in terms of having physical bookshops still in your shopping centres. We had, I think, the double blow of extensive and deep discounting when we lost the net book agreement. And we also had the double whammy of importing the American chain store model, which decimated small high street bookselling. We now have the issue where that chain store model is breaking down, collapsing. And we also have the situation now where supermarkets are doing very deep discounting on the top 20 books. So I think we have a real problem here of high street bookselling in the UK, and it's precisely what you're saying. People who shop online for books know that they love books, know what they're looking for, will spend their time browsing in an online store. But people who aren't very familiar with books and don't entirely know what they're looking for will generally only be confronted with those 20 books that are on sale in the supermarket. And that's fine in terms of putting books in people's hands, but it denies them that experience of widening the range, which you can do with a high street bookshop that you can't do anywhere else. And I will confess that that is one of the things that worries me.
Yeah. Je pense que pour que notre après-midi soit réussi, il faut que nous ayons tous les points de vue. Ursula et Val ont été très éloquentes et je voudrais leur demander simplement à l'une et à l'autre un dernier mot pour clore ce premier couple, en quelque sorte, avant de passer à notre couple éditeur et auteur allemand. Quel serait, Val, votre dernier mot? Vous avez dit à l'instant que vous étiez un peu troublé et inquiète en ce qui concerne le sort des librairies. Est-ce que votre message final serait un message de crainte, d'anxiété, ou un message d'espérance?
Well, I think fundamentally my personality inclines towards optimism, so I'm always hopeful. And I do think that there are aspects of the e-book, and enhanced e-books particularly, that allow for much more of a facility to browse than there has been perhaps available through the medium of supermarket sales. So I am hopeful that hand in hand with the development of the e-book, which I think is an exciting new platform that we have to embrace wholeheartedly, but I think that there are starting to emerge very promising signs that good small independent bookstores are having a kind of resurgence, that people are returning to a place where they can go and talk about books. And I think that one of the really heartening signs of this has been the growth of the book group. Book groups have been springing up all over the UK. They've become very popular. They're often sponsored by libraries. But often, as an offshoot of that, people are returning to small independent bookshops where they can find retailers who know what they're talking about. And so I am hopeful that the independent retailers will cling on, and that also new bookshops will open up, as they are, I think, starting to do in one or two places. So with a bit of luck and a following wind, perhaps the e-book revolution will actually see a return to printed books becoming more popular and more sellable in the high street. And also we shouldn't lose sight of the fact that good independent retailers will also sell e-books. That you can walk in off the street and buy your e-books in a bookshop. You don't have to be sitting in front of your computer. It doesn't have to be 3 o'clock in the morning when you suddenly decide you want to buy a book.
Yes, if I can add to that. Oh, yes, sorry. I think that the business of actually cross-selling physical and digital is a really interesting route. Barnes & Noble in the US, you know, who have their own digital device, the Nook, and they are very successfully leveraging that. And I think the great advantage is that some books undoubtedly are a very happy experience on a digital reader. But other books, it's actually easier and better to read in physical format. Perhaps there are complicated maps. Perhaps, you know, you want to flick back in the book to find the name of something and so on. Certainly more complex non-fiction, I think, is often better read as a book. So you can go into the bookshop, you can have a look at the books, and you can decide which ones you want to download onto your reader and which ones you want to read in physical format. I believe there will always be a place for physical books, and I don't think that's just because I've spent 30 years in publishing and I'm deluding myself. I hope not. And I think it's up to publishers to be as confident of the new technology, to be really ahead of the game, providing the right support for authors, which also includes, of course, financial support. You know, the great thing that a publisher does, perhaps the most significant thing, is to provide an advance which enables the author to eat while they're writing those books that we all like to read so much. So I think there's a great future ahead of us, but we do need the support of everybody, particularly of our legislators, the support for copyright, so that people's creativity can be rewarded.
Yeah. Je remercie beaucoup Ursula Mackenzie et Val McDermid, et je pense que vous êtes tous d'accord pour leur souhaiter à l'une comme à l'autre un très grand succès. Restez, stay there, okay. We are now our German couple, and après le couple allemand, on fera un petit débat, et en particulier, je pourrais donner la parole notamment aux collègues parlementaires qui sont là, et que, après Marielle d'ailleurs, je remercie beaucoup d'être ici, parce que ce n'est pas toujours facile dans ce Parlement européen, je parle d'expérience, mais je parle d'expérience depuis 25 ans, ce n'est pas toujours facile dans ce Parlement européen de faire entendre quelque chose, si petit soit-il, concernant la culture. Et encore plus aujourd'hui, où naturellement, on ne parle à Bruxelles que d'une seule chose, la crise, les banques, la crise, la dette, etc. Bon, honnêtement, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans la vie, en Europe et dans le monde, d'autres choses que la crise, la dette, les banques et tout ça. Et je pense que la littérature, en particulier, c'est quelque chose qui, à travers la crise, la dette, les banques, etc., continuera, d'une manière physique ou d'une manière numérique. Alors, maintenant, nous avons nos amis allemands. Alors, René Strin est éditeur, il est le patron de Aufbau. Je le dis, à l'origine, il était un spécialiste de langue latine, d'études romanistiques. Aufbau, c'est une maison d'édition qu'on pourrait qualifier par ce qu'elle publie, par une maison humaniste, en quelque sorte. Et à côté de lui se trouve Raphaël Seligman, qui est essayiste et romancier, à cheval entre Berlin et Tel Aviv, et il a introduit en Allemagne, et d'abord en s'auto-éditant lui-même, car il n'avait pas trouvé d'éditeur pour publier ses livres, il a introduit des romans, des textes, des essais au sujet des histoires juives, de la place des juifs, et pour en parler mieux que moi, il a rencontré au départ quelques difficultés, je dirais, avec l'establishment, et il les a résolues en s'auto-éditant. Mais aujourd'hui, il a un excellent éditeur, et je pense que c'est ce dont il va parler. Alors, nous avons convenu avec René et Raphaël qu'ils évoqueraient aussi, tous les deux, dans leur dialogue, le rôle, la place de l'éditeur et ce que l'auteur entend de lui, mais aussi que nous évoquerions avec eux des aspects plus économiques et en particulier, bien entendu, le paramètre fiscal dans l'économie du livre, à la fois du livre physique et du livre numérique. Est-ce que c'est René ou Raphaël qui commence ? René ?
Schönen guten Tag. Ich spreche auf Deutsch, damit Sie mich nicht entlarven, wie schlecht als Romanist mein Französisch ist. Aber wir werden gut übersetzt hier. Wir freuen uns über die Gelegenheit, über Dinge zu sprechen, die uns am Herzen liegen und mit denen wir jeden Tag umgehen müssen. Und früher war alles anders, früher war alles besser, sagen wir alten Männer immer. Früher war es so, dass Bücher ein Prestige genossen, Verlage genossen ein Prestige. Wir sind eine kleine Industrie. In Deutschland sagt man immer, das entspricht so ungefähr dem, was eine große Lastwagenfabrik an Umsatz macht, das, was unsere ganze Branche umsetzt. Das öffentliche Interesse ist immer sehr viel größer gewesen. Und in den letzten Jahren müssen wir feststellen, und da muss man aufpassen, dass man nicht eifersüchtig wird, dass wir viel von diesem Prestige eingebüßt haben, und es weht uns ab und zu ein kalter Wind entgegen, der da sagt, Bücher, altmodisch, das Neue, das eigentlich Interessante ist doch das Internet. Dass das Internet auch Inhalte braucht, ist dann schon dem einen oder anderen aufgefallen. Wo diese Inhalte herkommen sollen, irgendwer muss sie schreiben. Und dann stellte sich raus, dass auch Verlage im Internetzeitalter eine wichtige Rolle haben. Wie das professionelle Publizieren aussieht, das haben wir eben, glaube ich, sehr anschaulich gehört. Und auch, was den Unterschied zwischen dem Professionellen und dem Amateurhaften ausmacht, wobei das Amateurhafte überhaupt nicht abzuwerten ist. Es hat einen gleichberechtigten Stellenwert neben dem, was professionell passiert, aber völlig andere Entstehungsbedingungen, völlig andere Voraussetzungen. Und das Schöne an dem großen freien Internet ist ja, dass man sich aussuchen kann, ob man auf der Seite der Amateure sein möchte und ob man da Dinge entdecken möchte, die man dann auch als ein freies Angebot bekommt, oder ob man sich auf einer professionellen Seite umschauen will und ob man dort nach Angeboten für sich sucht, die man dann allerdings für das, was man dort bekommt, und der Aufwand, der dahinter steht, ist eben relativ eingehend geschildert worden, dass man dafür dann auch bereit ist, und auch das ist ja nur eine freiwillige Entscheidung, Geld zu bezahlen. So, nun könnte man denken, dass ein Autor wie Raphael Seligmann, von dem wir gerade gehört haben, dass sein erstes Buch zu einer Zeit, als das ganze Internet noch Zukunftsmusik war, im Selbstverlag publiziert worden ist, das heute ganz, ganz anders machen würde. Ich, der ich ihn kenne, bezweifle das, möchte aber gerne fragen, ob er das, diese ganze Geschichte heute noch mal so machen würde mit dem Publizieren des ersten Buches nur mit den Mitteln des Internets, oder gibt es vielleicht doch andere Gründe, sich anders zu entscheiden?
Ich würde es nicht wieder machen. Ich habe es damals auch nicht freiwillig im Selbstverlag mein Buch publiziert, sondern ich bin 4 Jahre von einem Verlag zum anderen in Deutschland gelaufen und habe das denen angeboten. Manche Lektoren fanden das ganz gut, aber die meisten sagten, in Deutschland ein jüdischer Gegenwartsroman, ein Roman lebt ja von den Gefühlen, und die Gefühle sind nicht immer positiv, die Juden sind nicht immer besondere Wesen, das habe ich so geschildert. Zum Beispiel denken sie nicht nur, sie haben auch Sex, und Sex ist für Juden nach 1945 nicht so ein Thema. Also kurz und gut, die Verlage haben alle gesagt, nein, sogar ein großer deutscher Verlag, der Ephraim Kishon, einen israelischen Humoristen, veröffentlicht hat, zusammen mit Franz Schönhuber, einem früheren SS-Mann, der sagte, nein, der Seligmann, vielleicht könnte das Antisemitismus ausbringen. Nach 4 Jahren war ich so frustriert, dass ich gesagt habe, ich veröffentliche das, das kostete viel Geld, es war mir, und irgendwie es kam raus, ich war aber unfähig, das Marketing zu machen. Also ich konnte es an Kritiker machen, aber ich konnte die Bücher nicht verkaufen. Ich bin nämlich überzeugt, dass es Tuer gibt, Macher gibt und Träumer gibt. Weil McDermott hat gesagt, sie weiß nicht, ob man verrückt sein muss, um zu schreiben. Also ich weiß nicht. Man muss es, glaube ich, nicht, aber es hilft, wenn man verrückt ist. Aber jedenfalls, das Entscheidende ist, die meisten Autoren sind Träumer. Am Tisch bin ich allmächtig, aber wenn ich dann einen Verleger finden muss oder einen Käufer finden muss, bin ich ohnmächtig. Man braucht ganz andere Talente. Das ist eigentlich das Talent des Künstlers. Also der große Van Gogh, kein Autor, aber ein Maler, war unfähig, ein einziges Bild zu verkaufen. Ein einziges Gemälde hat er an seinen Bruder Theo verkauft. Und der Autor, der normale Autor, nicht der Showman, ist nicht dazu gemacht, vor großem Publikum seine Bücher zu verkaufen. Er braucht einen Partner. In unserem Fall haben wir beide sogar das gleiche Monogramm. RS, Raphael Seligmann oder René Strin, und er soll möglichst meine Gedanken, meine Ideen brutal verkaufen, weil ich leben will.
Glücklicherweise sind wir nicht nur Kaufleute. Gallimard Perr hat das ja in eine sehr schöne Formel gefasst. Wir tun mehr, auch davon ist eben schon ein bisschen erzählt worden. Die Frage ist ja jetzt, müssen wir das auch im Zeitalter des Internets tun? Und da halte ich es mit Ursula Mackenzie. Ich glaube, dass wir nicht nur keine Angst vor dem Internetzeitalter haben müssen als Verlage, sondern dass wir uns darüber freuen dürfen, dass die Möglichkeiten, das, was wir verbreiten wollen, erweitert worden sind, um ein hochinteressantes Medium. Aber es ist eben auch nur das. Es ist weder eine neue Religion noch sonst irgendein Heilsbringer. Es ist für uns ein neues Medium. Das heißt, die Inhalte, die müssen genauso kritisch angeschaut werden. Hätten Sie früher ein Lexikon benutzt, 24 Bände, 48, was auch immer, in Ihrem Bücherregal stehend, von dem Sie nicht gewusst hätten, wer das geschrieben hat, was dahinter steht, was für Verlässlichkeit dahinter steht. Ich will keine Attacke gegen Wikipedia reiten, weil ich glaube, dass Wikipedia noch eine interessante und rühmliche Ausnahme ist mit allem, was man dagegen sagen kann. Aber immerhin gibt es da schon Kriterien. Aber es ist ein interessantes Beispiel. Stellen Sie sich vor, nehmen wir diese Semiprofessionalität von Wikipedia als ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie erwarten, dass der Aufwand, der dort betrieben wird, für alles betrieben wird. Was machen die Leute sonst? Was glauben Sie, was die Leute tun sollen, die dann in dieser Weise, wie die Wikipedia-Einträge entstanden sind, wenn die jetzt ganze Romane schreiben? Das kann nur ein amateurhaftes Unterfangen werden, mit allem Charme, den das hat, mit allen Risiken, die das hat. Wie viel Zeit haben Sie? Wo wollen Sie rausfinden, was Ihnen Spaß macht? Wir haben gerade, was für Sie eine Belohnung bringt, was Sie weiterbringt. Wir haben eben gerade gehört, wie die Situation im Buchhandel in England aussieht. Wir sind in Deutschland noch wir sind manchem langsamer. In diesem Falle geht es uns noch ein bisschen besser. Wir sind noch nicht so weit, aber die Tendenzen sind natürlich bei uns sehr, sehr ähnliche. Konzentration auf wenige Kettenläden, von denen der eine schon ordentlich in der Krise steckt, und ein starkes Sterben der einzelnen Buchhandlungen. In der Buchhandlung kriegen Sie ein Garantieversprechen. Der Buchhändler kennt im besten Falle Sie, redet mit Ihnen, kennt Ihren Geschmack und kann Ihnen Empfehlungen geben. Oder Sie stöbern in vorhandenen Büchern. Wenn Sie in der Weite des Internets, wo Sie alles finden können, sich umtun, dann geht es Ihnen wie unser einem auf der Frankfurter Buchmesse. Sie finden gar nichts mehr, weil nämlich alles da ist und damit auch nichts. Wer zeigt Ihnen in einer Weise, auf die Sie vertrauen können? Hier gibt es eine Vorauswahl an Qualität. Hier gibt es ein Markenversprechen. Hier gibt es eine Arbeit, die dahinter steckt, die Ihnen garantiert, das Geld, das ich hier ausgebe, das werfe ich nicht zum Fenster raus. Es gibt eine professionelle Qualität dahinter. Das sind die Verlage tatsächlich. Und ich will noch eine Sache erwähnen, weil Raphael Seligmann völlig zu Recht den kommerziellen Aspekt aufgeworfen hat. Der Autor, der davon leben muss und der nicht auch noch sein eigener Kaufmann, sein eigener Vertreiber, sein eigener Werber sein kann. Das ist der technische Auftrag der Verlage. Wir sind aber viel schlimmer als Verlage. Das gilt für Little Brown mit der großartigen Tradition, die Little Brown hat. Das gilt ganz gewiss für Gallimard und es gilt auch für die 65-jährige Aufbautradition. Wir stellen uns selber Ziele, die mit dem Kommerz nichts zu tun haben. Natürlich müssen wir als kommerzielle Einheiten funktionieren, sonst existieren wir am Markt nicht weiter. Aber wir sind nicht so wie ein Autofabrikant, der sagt, welches Auto wird dieser Markt akzeptieren. Wir haben Programmvorstellungen. Wir haben im Zweifelsfall bildungspolitische Vorstellungen. Bei Aufbau ist das die Gründungsgeschichte gewesen. Aufbau ist 1945 gegründet worden im Rahmen eines Reedukationsprogrammes. Man wollte Deutschland wieder erziehen dazu, zu den Werten zurückzukommen, die dort einmal hochgehalten worden sind. Und einer dieser Teile in der noch vor Einheitsparteizeit, bevor es nur Kommunismus im Osten gab, eine dieser Maßnahmen war die Gründung des Aufbauverlages. Und dieses Gründungsprogramm ist ein gutes Verlagsprogramm. Man hat versucht, Weltoffenheit, Bildung, Aktualität, all das in Verlagsprogrammen zu vereinen. Und das hat man getan, unabhängig vom Kommerz. Und wir haben versucht, soweit das in einem marktwirtschaftlichen System möglich ist, auch nachdem das marktwirtschaftliche System auch im Osten Deutschlands Einzug gehalten hat, weiterzutun. Und wir sind damit keine Exoten. Wir sind nicht der einzige Verlag, der so denkt. Ja, wir wollen finanziell über die Runden kommen, aber wir müssen nicht reich werden dabei, weil wir andere Belohnungen finden. Wir handeln nämlich mit einer Ware, die eben nicht aus Schrauben oder aus Drehteilen oder sonst etwas bestehen, sondern die darüber hinaus einen emotionalen Mehrwert bringen, auch für diejenigen, die sie produzieren und für diejenigen, die sie vertreiben. Und deswegen tun wir etwas, was eigentlich der Politik gefallen müsste. Wir übernehmen in Teilen öffentliche Aufgaben. Und Ich glaube nicht, dass wenn ich Raphael Seligmann jetzt nach seinem Sendungsbewusstsein frage, dass ich dann die Antwort erhalte, dass er sich als Volkspädagoge sieht. Aber ich frage ihn schon, ob er seine Dinge schreibt, um sie an seinem eigenen Schreibtisch zu bewundern, oder wie er sein Verhältnis zum Publikum sieht.
Ja, die Antwort ist klar. Ein Autor muss auch ein Exhibitionist sein. Sonst würde er Tagebücher schreiben und die verstecken, oder er würde wie Kafka am Ende den Auftrag geben, das zu verbrennen, wobei er ziemlich sicher war, dass Max Brod es nicht getan haben würde. Nein, ich bilde mir nicht ein, dass ich der Volksaufklärer bin, aber ich glaube, dass ich mit meinen Gefühlen andere Menschen ansprechen kann und mit meinen Ideen. Und ich will etwas beeinflussen. Ich bin unter anderem ein politischer Schriftsteller. Ich habe ein Buch geschrieben über die Deutschen und Hitler, nicht nur über Hitler, sondern vor allem, warum die Deutschen Hitler angesehen haben, Hitler gewählt haben, Hitler gefolgt sind, warum er ihr Führer war, wie die Situation heute bei aller Unterschiedlichkeit in Deutschland ist, wie die Juden in diesem imaginären Ghetto leben. Also ich suche den Dialog zunächst im Verlag und dann mit der Öffentlichkeit. Und für mich ist der Gedanke unerträglich, Sie haben das ja erwähnt, Bücher oder im Internet werden Gedanken gestohlen. Ich glaube, da ist sogar noch was Schlimmeres. Es wird ein normaler Dieb stiehlt was und er weiß, entweder hat er ein schlechtes Gewissen oder was noch schlimmer ist, er kommt ins Gefängnis. Wenn jemand was im Internet stiehlt, hat er kein schlechtes Gewissen. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist nicht nur theoretisch so. Wir haben jetzt in Berlin vor 4 Tagen Wahlen gehabt und da hat eine Partei 9% gewonnen, die sich nennt die Piraten. Ihr Auftrag und ihr Selbstverständnis ist es, alle Inhalte zu stehlen oder für alle zugänglich zu machen. Das kann ich so nennen oder so nennen. Und der einzelne Autor wäre ohnmächtig. Also mein Wunsch ist, dass die Verlage uns Autoren und sich selbst, das sind immer die besten Koalitionen, dabei helfen, dass wir weiter von unseren Schreiben leben können und nicht wie noch vor 200 Jahren, dass der Autor angewiesen war auf die Gnade eines Fürsten. Ich will nicht zur Regierung laufen und mich als von der Regierung bezahlter Schriftsteller oder gar von einem Komitee zu sein, bei dem ich jeden folgen will. Und ich will auch nicht so sein. Es gab der erste bekannte jiddische Schriftsteller in Osteuropa, hieß Mendele Mocher Sfarim. Der hieß tatsächlich Rosenbaum. Aber Mendele Mocher Sfarim ist ein Hebrew Name und das heißt Mendele der Bücherverkäufer. Also er ging auf jede Lesung mit 20 Büchern und hat versucht, sie zu verkaufen. Und in diese Situation will ich weder einen jüdischen noch einen nichtjüdischen Autor bringen. Ich will überhaupt keinen Menschen dazu bringen, dass er praktisch ein absolut abhängiges Wesen ist von der Gnade von Mäzenen, sondern ich will, dass Autoren zusammen mit Verlegern ein gemeinsames Interesse verfechten, Ideen von Menschen, die dem Verlag gefallen, unter Menschen zu bringen, ohne Diebstahl. Und ich will es nochmal wiederholen, für mich ist das Herausholen ohne Bezahlung aus dem Internet nichts anderes als Diebstahl mit gutem Gewissen.
Tout ceci, tout, nous sommes entièrement d'accord, tout ceci s'appuie aussi sur une économie du livre. Et je voulais demander à René et à Raphaël, pour finir leur couple, leur dialogue, quel est leur sentiment sur, en quelque sorte, l'économie du livre en papier et l'économie du livre numérique comparée, et notamment sur les distorsions que peut introduire la fiscalité entre ces deux économies. Et puis nous passerons ensuite à un petit débat. René.
Ich bin gerade in den USA gewesen. Da ist man noch ein Stückchen weiter als in England. Und was die Relation von Internet-Buchverkäufen zu real existierenden Buchexemplaren angeht, ist es in Teilen bei einzelnen Bestsellern schon so, dass ausnahmsweise im Internet schon mehr verkauft wird als in Hardcopies, die man gedruckt hat. In jedem Falle ist es ein Anteil, der bei weitem das übersteigt, was wir an Anteil haben. Bei uns ist es ein dynamischer Teil und wir stellen natürlich fest, dass speziell junge Menschen davon angezogen sind. Anders als bei früheren Versuchen hat man mit den neuen Lesegeräten auch eine Popularisierung hinbekommen. Das Internet ist das Medium der Gegenwart und der Zukunft und wird für uns Verlage große Chancen bereithalten. Die Risiken dabei haben mit dem Bezahlen oder Nichtbezahlen zu tun. Und ein ganz wesentlicher Punkt, um das in legale, in auch bezahlbare, also auch den Erschaffensprozess und den Qualitätssicherungsprozess und was da alles hintersteht, bezahlen zu können, ist Preise ermöglichen zu können, die noch nachvollziehbar sind und die akzeptabel sind. Das heißt, so wie man das schon beim gedruckten Buch erkannt hat, dass das von der Politik förderwürdig ist, und zwar nicht in einer direkt subventionierten Art und Weise, sondern in der indirekten, der freien Art und Weise, wie man das mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz tun kann. Das muss, und ich denke, es ist auch logisch nachvollziehbar, auch im Internet passieren. Und ich will noch eine Sache sagen, die vielleicht nicht jedem so ganz klar ist. Das Internet als ein Medium, in dem sich die jungen Menschen bewegen, ist ja nicht nur eine Alternative zum Bücherlesen, sondern es ist auch etwas, was uns beeinflusst. Ich habe gerade vor ein paar Wochen ein Essay von Vargas Llosa gelesen in El País, der mich ein bisschen erschreckt hat. Da hat er Erkenntnisse zusammengefasst, unter anderem aus dem großartigen Buch, dem erschreckenden übrigens von Nicholas Carr, The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brain, von dem, was auch Entwicklungsbiologen festgestellt haben und auch statistische Beobachtungen von Universitäten. Und all das läuft im Wesentlichen darauf heraus, ja, Internet funktioniert großartig, entwickelt auch bestimmte Fähigkeiten neu, was so das Diversifizieren angeht und das Multitasking angeht, aber es verkümmert absolut das Gedächtnis, die Konzentrationsfähigkeit am Stück und die Fähigkeit, auch am Stück einen linearen Text entlang zu lesen. Und wenn wir das fördern wollen und wenn wir das für ein förderungswürdiges Ziel halten, weil es auch mit Emanzipation, mit Teilhabe an Gesellschaft, mit Teilhabe auch an Gestaltung dieser Gesellschaft zu tun hat, mit Bildung schlechthin, dann können wir das für die Jugendlichen am ehesten im Internet fördern. Wenn wir nämlich da, wo sie noch vielleicht bereit sind, sich einer solchen Mühe auszusetzen, einer solchen Konzentration, wenn wir ihnen da den Zugang so sehr erleichtern, wie wir das nur irgendwie können. Und ich glaube, Aufgabe der Politik wäre, das zu tun, was sie da tun kann. Und das heißt für mich ganz klar einen reduzierten Mehrwertsteuersatz, auch für die Bücher, die eben nicht körperlich existieren, sondern nur als Download.
Merci. Merci beaucoup. Je remercie René et Raphaël. Et je voudrais à ce point peut-être demander s'il y a dans la salle telle ou telle personne, notamment nos collègues parlementaires, qui souhaitent éventuellement à ce point dire quelque chose? Doris Pack, présidente de la Commission de la Culture, Elga ou d'autres qui sont ici, Constance. Elga.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne mal da ansetzen an den Äußerungen von Raphael Seligmann und dem Berliner Wahlergebnis für die Piratenpartei. Ich teile sozusagen alle Bedenken, die hier vorgetragen worden sind. Ich fand auch sehr schön, was unsere englische Autorin gesagt hat, dass diese Vorstellung oder diese Philosophie sharing is caring, that it means you don't share back with me. Und ich glaube, dass dieser andere Teil, der muss viel öffentlicher und deutlicher kommuniziert werden, der ist jetzt in dieser Euphoriephase des Internets aus meiner Sicht deutlich zu kurz gekommen. Und gestern, wenn man deutsche Medienkommentare zu diesem Wahlergebnis gelesen hat, gab es ja Kommentare, die gingen alle in diese Richtung. Das sind die Kinder von Marx und Microsoft. Und die haben so eine ganz bestimmte Mischung von sehr liberalem oder auch neoliberalem Denken, also liberal im Sinne der Bürgerrechte, neoliberal, der Staat soll bitte gar nicht eingreifen, und ganz linksradikal oder sozialistisch-kommunistisch im Sinne, alles gehört allen. Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist in Bezug auf diese Art des Denkens, die ja ein bisschen mit so einer, sagen, Befreiungsideologie der Daten und der kulturellen Inhalte daherkommt, so etwas wie eine Verantwortungsvorstellung entgegenzusetzen, dass eine Gesellschaft, die kulturelle Vielfalt nachhaltig ermöglichen will, bereit sein muss, dafür angemessene Preise zu bezahlen, weil man sonst mittelfristig eben die Möglichkeiten von freien Autoren oder anderen Künstlern dramatisch beschneidet. Und aus meiner Sicht ist das eben der entscheidende Punkt, diese Argumentation gesamtgesellschaftlich zu verbreitern, weil gegen diese Befreiungsideologie ist es zumindest in den Kreisen der jungen Menschen nicht so leicht anzukommen.
Merci beaucoup, ja. Doris Pack. Oui.
Vielen Dank für Ihre Beiträge. Wir diskutieren in unserem Ausschuss, Helga Trüppel ist eine stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, wir diskutieren in diesem Ausschuss natürlich das Thema Copyright. Wir diskutieren das Thema, ja, Autorenrechte im weitesten Sinn. Und wir stoßen natürlich da immer auch auf ganz unterschiedliche Sichtweisen. Die Sichtweisen eines Verlegers und eines Autors für Bücher sind ganz anders als die eines Filmdokumentators oder ja, von Musik. Es ist ganz unterschiedlich. Und wir haben eine Situation vor uns, wo wir quasi die Quadratur des Kreises finden müssten, indem wir eine Copyright-Richtlinie machen, die das alles abdeckt. Ich weiß nicht, wie das geschaffen werden kann. Aber ich stimme Ihnen vollkommen zu, ohne Autoren oder Schaffende könnten wir auch im Internet nicht bestehen. Dann hätten wir vielleicht nur alle die Dilettanten, die da sich bloggen. Ich glaube also, wir müssen in dem Bereich ganz stark miteinander arbeiten, dass die Autorenrechte im Internet gewahrt bleiben. Und da bin ich auch auf der Seite von Ihnen und von Jacques Toubon, dass wir dafür sorgen müssten, auf der politischen Seite, es nicht nur über das Thema Copyright anzugehen, die Geschichte, sondern auch über das Thema Bezahlen. Und da muss es einfach, es ist einfacher, wenn wir hier die Chance schaffen, dass eben Bücher übers Internet eben auch bezahlbar sind, so bezahlbar wie die, die ich im Buchladen kaufe. Ich möchte aber noch mal auf die Verbreitung eingehen, die auch Herr Seligmann angesprochen hat. Wenn es keine Verleger gäbe, würde die Verbreitung ja nicht stattfinden können. Sie stecken Geld in die Verbreitung, finanzieren das, und auch daraus gibt es ja die Möglichkeit, dann auch einen Internetnutzer quasi auch dieses Buch dann im Internet einzugehen. Das heißt, die leisten eine Arbeit, nicht nur für das geschriebene Buch, sondern eben auch für das, was also im Internet herunterzuladen ist. Insofern, glaube ich, müssen wir wirklich Ihnen helfen, dass Sie diese Arbeit dann auch bezahlt bekommen, auch in beiden Angeboten. Dann möchte ich nochmal auf Sie zurückkommen. Ich habe noch kein Buch von Ihnen gelesen. Ich lese, ich weiß nicht, wie viele Krimis. Aber ich werde mir jetzt Ihre besorgen, kann ich Ihnen versichern. Ich meine nur, wenn wir sehen, wie es in Großbritannien jetzt ist, wie Sie es beschrieben haben, Und wie es in Deutschland Gott sei Dank noch nicht so ist. Ich komme aus einer Stadt, in der es noch viele Büchereien gibt. Ich bin selber Vorsitzende der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Also wir haben sehr viele Bücherkaufmöglichkeiten auch noch, außer den großen, die es auch gibt. Aber ich denke, das Thema Buchclub ist wichtig. Und wir sollten auch dafür sorgen, dass das eine größere Verbreitung findet. Wir sehen im deutschen Fernsehen, ich weiß nicht, wie es in anderen Fernsehen ist, im deutschen Fernsehen mehr und mehr Möglichkeiten geschaffen werden, Plattformen. Jetzt gibt es sogar eine viel größere im ZDF, die ist gerade angekündigt, zum Thema Bücher. Und ich weiß, dass ich mir sehr oft aus diesen Veranstaltungen einen Tipp genommen habe, wenn ich nicht gerade zu meinem Buchhändler gegangen bin. Also ich denke, das ist eine sehr gute Art, Menschen zum Verstehen der Notwendigkeit, die Autoren zu unterstützen, zu bringen, wenn man eben auch solche Buchclubs findet. Und da möchte ich gerne hier den Kollegen sagen, wir haben in diesem Hause einen Buchclub. Leider wird er nicht so häufig von den Kolleginnen und Kollegen besucht. Vielleicht haben sie anderes zu tun. Aber ich weise Sie darauf hin, wir haben Ende dieses nächsten Monats eine wunderbare Veranstaltung. Und ich würde Sie herzlich bitten, dann auch dahin zu kommen. Danke.
Merci Doris. Avant de donner la parole à Raphaël Seligman qui veut faire une petite réponse, je demande à Cécilia Wikström qui veut poser une question de la poser.
Thank you very much. Well, the sentence of today will definitely be the one stated by... Is the microphone not on?
Oh, it's the other one. I'm sorry for that. I should know this by now.
The sentence for today is definitely the one by Val McDermid. Nobody's sharing back with me. I'm giving away my words, my wisdom, my experience, and also every author is giving and sharing the collected silence of a lifetime. It's not only about words, it's also about the collected silence that we all carry within us. And I think that is the most exclusive that you share with us. I think that's fantastic. Having said that, it's all about content, and we are talking about content. But when I want a book, I never ask for content. I'm asking somebody, could you please pass me my book, my novel, my poetry that I'm longing for? So we should keep talking about books, irrespective of how they are distributed and how they are read, whether it's a paper copy, an internet platform, a device, I don't know what, but we should maintain the perception of a book as such. Nobody's happy by content. Content doesn't make a change in a person's life, but a book can change a person's life. And that is important. I appreciate very much what you shared with us on differences between the United States and Europe. And I wonder how competitive is the retail publishing market in the EU if you compare it to the market in the US, and especially when it comes to young people. Do they consider the internet trade different from buying books in a regular store or in the gas station or maybe in the supermarket? But do they consider this trade, the marketplace, differently? I think that would be interesting if you could elaborate a little bit more, and also maybe more difficult. Is respect for the author different in the young generation? Is it different now than it used to be, let's say, 20 years back in time? Thank you.
C'est avant que Raphaël réponde et dise le dernier mot, Cécilia, je veux préciser justement quelque chose qui est au cœur de tous ces débats. C'est que l'économie de la diffusion du livre en ligne aux États-Unis fait l'objet depuis 12 ans d'une politique extrêmement favorable qui a permis le développement exponentiel, d'une part des plateformes Internet, des sites, et d'autre part du marché du livre numérique, 12% en ce moment, et qui donne naturellement à ces entreprises américaines une situation compétitive extrêmement favorable par rapport, au contraire, aux entreprises et aux éditeurs européens qui, eux, subissent des conditions beaucoup plus difficiles et, en particulier, subissent une fiscalité normale lorsqu'il s'agit de la diffusion en ligne. Et c'est là où on rejoint très bien ce que vous venez de dire, où on rejoint le rôle de l'éditeur, le couple éditeur-auteur, et comment on voit qu'en fait, de manière pas artificielle du tout, on rejoint deux conceptions. Aux États-Unis, depuis 1998, on a décidé que l'avenir de l'économie et l'avenir de la culture passaient par le numérique et par le online. En Europe, on ne l'a pas fait. Nous avons la catastrophe sur la musique, vous le savez très bien, piratage ou diffusion par des plateformes offshore, c'est-à-dire américaines. Ce que nous ne voulons pas, ce que ne veulent pas les éditeurs et ce que ne veulent pas les auteurs, c'est qu'il se produise la même catastrophe pour le livre qu'il s'est produit pour la musique. Et c'est exactement ce que vous venez, de dire. Il s'agit donc d'introduire des conditions économiques et en particulier fiscales qui permettent de créer une base de compétitivité pour ce que font les éditeurs et les auteurs, c'est-à-dire leur talent, leur contenu, leur imagination, leur folie, comme disait Val tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas la base économique, eh bien la folie de Val, un jour, elle sera à la merci de Kindle ou à la merci de Apple Books. Et je ne suis pas sûr que Apple Books ou Kindle décident que la folie de Val vaut la peine d'être mise sur les tablettes. Et c'est tout le problème.
Raphaël.
Ja, danke. Ich möchte gleich bei Ihnen einsetzen, und zwar auf den Bereich der Wirtschaft. Es hat gerade in Deutschland auch ein Prozess stattgefunden zwischen Apple und Samsung um die Form eines Tablets. Und jetzt kann das Apple mit seinen Milliarden kann da so einen Prozess führen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich als Autor soll so einen Prozess führen, ich kann das gar nicht, ich kann das nicht zahlen. Darum brauche ich einen Verlag, darum brauche ich einen Verleger. Und sogar wenn der Verlag klein ist, gibt es ein Bündnis von Verlegern mit einem gemeinsamen Interesse.
Das gerade funktioniert hat, weil wir uns als Verlage und übrigens europaweit gegen das Google-Settlement gewehrt haben und zwar in der Tat fast uns selber ein bisschen überraschend erfolgreich gewehrt haben. Da hat die Politik übrigens auch geholfen und ein kleiner Bezirksrichter in New York hat tatsächlich Recht gesprochen. Das heißt also, es ist, wenn man sich zusammentut, selbst mit unserer bescheidenen Größe, es ist möglich, aber es hat natürlich unglaubliche Vorbereitungen und Anwaltsgebühren gekostet, die ein Autor nicht hätte tragen können. Das Beispiel hatten wir schon.
Und zum zweiten Punkt, da bin ich optimistischer als Sie in Bezug von Papier zum digitalen Modell. Schon als Autor, ich schreibe mit der Hand. Also ich kann mich in jedes Café reinsetzen und anfangen und weiterschreiben, ein Buch, eine Geschichte, einen Artikel. Das moderne Menschen können das nicht. Die brauchen ihre Verbindung und ihr System und ihre Batterien und ihren Strom und vielleicht noch ihren Computer zum Denken, den Zufallsgenerator, das brauche ich alles nicht. Und ich glaube, ähnlich ist es auch teilweise und wird es sein für den Leser. Ich kann mit einem Buch an den Strand gehen. Ich kann mit einer Zeitung an den Strand gehen. Ich brauche keine Batterien, ich brauche keinen Akku, ich brauche keine besonderen Augen, ich brauche keine Brille. Ich meine, das Buch, das Papier wird eine Zukunft haben und sie wird umso stärker sein, je energischer wir uns jetzt dafür einsetzen.
Raphaël, je pense que c'est un bon mot de la fin. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce que Raphaël vient de dire dans cette fameuse vidéo qui est diffusée sur YouTube, cette vidéo espagnole qui s'appelle Book et qui montre que Book, c'est la chose la plus moderne qui soit. Comme il le dit très bien, vous n'avez besoin de rien. Vous le transportez partout, c'est léger et tout, et ça marche tout seul. Voilà. Merci beaucoup à Ursula, à Val, à Raphaël et à René de leur dialogue si riche. Merci beaucoup à ceux qui sont intervenus. Je vais demander à Antoine Gallimard et à Daniel Pénac de venir pour le dernier dialogue avant que le commissaire Barnier nous rejoigne. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à prendre connaissance, ça se trouve sur Internet, de la dernière étude de la Fédération internationale des éditeurs qui porte sur la TVA dans le monde et qui montre en particulier comment la Corée est le premier pays qui a aligné le taux de la TVA sur le livre en ligne sur le taux réduit du livre papier. Et c'est une étude extrêmement intéressante qui montre que le combat que nous menons n'est pas du tout isolé, ni en Europe, ni dans le monde. Alors, Antoine Gallimard, naturellement, a 100 ans cette année, pas lui, mais sa maison, et vous le savez tous, son grand-père a créé la maison Gallimard en 1911. Il est l'un des grands éditeurs indépendants en France et en Europe, et il est, depuis l'année dernière, le président du syndicat national des éditeurs, c'est-à-dire l'un des principaux membres de la Fédération européenne des éditeurs qui nous réunit aujourd'hui. Et il a toujours été, avant même d'être le président du syndicat, un chaud partisan du travail interprofessionnel et en particulier avec tous les niveaux de la filière du livre et en particulier la librairie, c'est-à-dire les détaillants. Daniel Pénac, lui, est un des auteurs les plus célèbres en France et en Europe. Il a des amours très variés qui sont le français, l'école, c'est un héros de l'école, c'est un héros de la lecture, c'est un héros de l'écrit, et aujourd'hui, donc, ils vont dialoguer principalement sur la question du droit d'auteur, de la propriété littéraire et artistique, mais aussi, naturellement, sur tous les aspects de ce sujet. Donc, je leur donne la parole. C'est notre dernier dialogue. Et, comme je l'ai dit, ensuite, le commissaire Michel Barnier, qui est en charge du droit d'auteur et de toutes ces questions, viendra intervenir dans ce colloque.
Merci Jacques Toubon. Ben, j'espère que ce n'est pas le dernier dialogue, j'espère qu'on en aura d'autres. Je dois dire que je suis heureux d'être ici, avec Daniel et avec vous tous. Souvent, on a le sentiment, nous les éditeurs, français, je pense aussi allemand, ou anglais, suédois, qu'on peut être la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que souvent on parle du cinéma, de la musique, des drames qui leur arrivent, des difficultés rencontrées. Je sais que ces industries, qui sont tout à fait honorables, ont aussi des relais d'opinion très puissants. Et nous avons le sentiment que les éditeurs ne sont pas toujours compris ou pas toujours appréciés à leur juste valeur. C'est pour ça que là, aujourd'hui, bon, y a une audience de qualité. On est très heureux de s'adresser aux parlementaires européens qui nous font l'honneur d'être ici. Je veux dire, c'est rare. Et on va en profiter, et je les remercie. Je remercie aussi Marielle Gallo, grâce à elle, Marielle, de nous réunir, de nous laisser dialoguer, tranquillement sur des sujets qui sont parfois un peu techniques, mais au-delà de leur technicité, qui restent hautement de culture politique. Je pense qu'il y a là, effectivement, un sujet tout à fait important qui nous concerne tous. Et madame, vous l'avez très bien rappelé, c'est-à-dire qu'à la fois, ben, la culture, c'est sa dynamique, c'est son économie. On vit dans une économie libérale. Il y a des règles de marché. On est pour un dynamisme, pour la compétition. Mais en même temps, les économies propres à la culture doivent être comprises sans penser qu'il y a là un risque pour l'économie de marché. Quand vous pensez, par exemple, que le livre, en France, c'est en chiffre d'affaires, c'est 3 fois celle du cinéma, c'est 5 fois celle de la musique, alors que nous vivons sous l'égide d'une loi sur le prix unique, que nous avons un système d'aide à l'édition, un système d'aide à la création, ça n'a pas empêché d'avoir des emplois directs et indirects. On a plus de 50 000 emplois en France autour du livre. Cela n'a pas empêché d'avoir une diversité importante, puisque nous publions à peu près autant qu'en Angleterre et en Allemagne, autour de 80 000 titres. Mais simplement, je pense que là, il y a une diversité chez nous et une diversité de points de vente auxquels vous avez remarqué que nous sommes tous tout à fait attachés. Et là, ça, c'est grâce aussi à un système qui est en même temps tout à fait libéral et qui tient compte des règles spécifiques. Donc vraiment, je pense que par rapport aux discussions que nous avons aujourd'hui, que ça soit sur un ajustement du taux de TVA, et je pense que c'est très juste, est-ce que c'est normal qu'en Angleterre, où il y a un taux zéro pour le papier, il y a un taux plein pour le numérique? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal qu'en France, où on a un taux ajusté quand vous avez un contenu sur clé USB et un taux plein quand vous faites du téléchargement? Moi, je ne comprends pas. Peut-être que vous, mais moi, je ne comprends pas. Alors, justement, grâce à Jacques, qui est sensible à nos questions, nous voulons vraiment vous sensibiliser à ce problème. C'est un problème à la fois national, donc des consommateurs, et international. Et on aimerait, et je pense que c'est pas la question aujourd'hui, c'est la question des relations qu'on peut avoir entre auteurs et éditeurs. Mais je reprends la balle au bon sur le premier sujet, et je dis qu'il est d'une extrême importance, comme on a montré l'importance de la librairie. Alors, aujourd'hui, en fait, si ce débat a lieu, même pour l'auteur-éditeur, c'est montrer que c'est vrai qu'il y a, j'ai l'impression que je vais faire un plaidoyer pour un malade ou pour quelqu'un qui doit disparaître. J'ai l'impression que voilà, sauvez-nous, hein, on est comme les Esquimaux de la banquise, on va disparaître. La glace fond, attention. Ben non, je sais pas, c'est à vous de juger, mais je veux dire que bon, on peut penser aujourd'hui pourquoi un éditeur, à quoi ça sert, hein, on peut être en direct. Pourquoi sert un éditeur? Ah, les libraires, c'est inutile avec Internet. Après tout, tout va bien, hein. Et puis même Internet, un lecteur peut devenir un auteur et réciproquement, et tout va très bien. Alors bon, alors on est là pour vous donner à la fois des choses que vous connaissez, évidemment, mais surtout pour vous sensibiliser au fait que l'édition, ça peut passer plusieurs générations, je suis la preuve vivante, que l'édition, c'est aussi un travail lent, parfois désespéré, un peu solitaire, assez courageux, pour justement affronter ses envies et ses propres démons. Et je pense qu'à ce niveau-là, voilà pourquoi il y a cette relation nécessaire, qui est une relation financière, puisque quand même, nous finançons les auteurs, et on finance beaucoup d'autres choses, et en même temps, quelque part, un compagnonnage. Voilà. Donc je voudrais qu'on parle de ça. Je vais laisser la parole à Daniel, mais on pense qu'on peut se retrouver aussi pour des petites conclusions. Daniel.
Oui, bonjour. Oui, au fond, quant à moi, il s'agit juste de parler de la relation entre l'auteur et l'éditeur, étant entendu que je n'ai pas la moindre capacité technique de vous parler de quoi que ce soit d'autre. J'ai entendu Val McDermid dire que nous écrivions tous plus ou moins pour raison de santé. Elle a parfaitement raison. J'ai entendu Ursula McKenzie vanter les mérites de l'éditeur comme conseiller, l'éditeur comme diffuseur. Ce sont des mérites réels en fonction des tempéraments de l'auteur. Il aurait été très difficile de faire avaler à Flaubert que son éditeur était un conseiller esthétique qu'il lui fallait écouter. Lorsqu'on lui envoie Madame Bovary avec une proposition de coupe, avec en plus ça ce que dit-il, nous avons chez nous quelqu'un qui fait très bien cela, il ne t'en coûtera que 30 francs, etc. Flaubert est évidemment piqué une crise de fureur et a renvoyé la lettre en écrivant « énorme » comme ça. Quant à l'éditeur comme diffuseur, Là, je vais faire plaisir aux dématérialiseurs. Dostoïevski, écrivant Les Frères Karamazov, a décidé de rompre avec son éditeur, et estimant qu'il le volait, et je parlerai tout à l'heure du vol des éditeurs, estimant qu'il le volait, Dostoïevski a décidé de publier tous les exemplaires des frères Karamazov, de les stocker chez lui, de convoquer les libraires et de les... Bien. Ce qui, par parenthèse, doit faire extrêmement plaisir aux dématérialisateurs d'aujourd'hui. Et à ce propos, j'aimerais savoir s'il y a dans la salle des représentants de Google ou de... Y en a-t-il? Ah, vous n'êtes donc pas si dématérialisé que ça, vous existez. C'est merveilleux parce que vous êtes le tout premier que je rencontre de ma vie. Vous existez depuis 15 ans. Pendant ces 15 années, j'ai assisté à quelques réunions comme ça sur l'édition et les rapports entre Google, auteur et éditeur. Je n'ai jamais rencontré, jamais, dans aucune de ces... Sauf aujourd'hui, vous et... auquel d'ailleurs je viens d'annoncer une excellente nouvelle, vous auriez hérité des frères Karamazov si vous aviez vécu en 1868, etc. Mais je ne vous ai jamais vu. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement important. Vous remplissez ma vie, puisque je vous consulte tous les jours, que gratuitement j'accède à quantité de renseignements qui me sont indispensables pour mon travail, mais je ne vous ai jamais vu. Aucun d'entre vous, physiquement, jamais, pendant vos 15 dernières années d'existence. Et pendant ces 15 dernières années d'existence, combien ai-je vu de libraires? Combien de fois ai-je vu Antoine? Combien me suis-je fait d'amis chez Gallimard, de la cave où je suis entré en tant que romancier de romans policiers de la série noire, jusque à l'étage noble où j'ai publié en blanche? Combien d'amis me suis-je fait? Tous ces amis, libraires, attachés de presse, représentants, ouvriers du livre, etc., etc., constituent pour moi la vie littéraire. C'est donc pas simplement réductible à un rapport personnel avec Antoine. Il se trouve que j'aime cet homme, je l'avoue publiquement, ici. Alors, bon, c'est une liaison officielle qui dure maintenant depuis 30 ans. Mais ça n'a pas vraiment de rapport à mon attachement à l'édition en tant qu'elle procède d'une maison. Le livre, c'est... Tout ce rapport affectif dont je... Pas seulement affectif, d'ailleurs, affectif, intellectuel, etc., dont je viens de parler en vous disant que vous, je ne vous ai jamais vu. Alors que je vous aurais vraisemblablement aimé aussi, parce que je suis assez sentimental, si je vous avais... Mais c'est ça, et qui fait que le livre ne me paraît pas, à moi... pour moi, être dématérialisable. En tout cas, mon propre corps ne le souhaite pas. Amen. En ce qui me concerne. En ce qui me concerne.
Merci. Tu veux rebondir ?
Je ne sais pas.
Tu veux rebondir ?
Veux-tu rebondir, Antoine ?
Oui, non, mais je
peux... Non, mais attends, répondez d'abord. Est-ce que tu réponds à son amour ? Appuie sur ton micro.
Oui, je réponds à son amour. Je peux lui dire que, bon, quelqu'un un jour me disait, un auteur de la maison, d'ailleurs depuis il est parti, qui me jurait sa fidélité, et qui m'a dit, bon, voilà, je vais faire une petite excursion, et il me disait, mais les petites tromperies font les grandes fidélités. Alors, bon, je l'ai cru plus ou moins, hein, mais maintenant, je suis très, très attentif, et Daniel n'a pas intérêt à donner son texte ailleurs. Sinon, je pense que je ne sais pas ce que je fais. Mais un jour, je peux vous dire que ma maison a connu des difficultés. Souvent, dans les générations, les héritages, les entreprises. Et à un moment, j'ai eu des rencontrer quelques difficultés de succession patrimoniale. Et certains auteurs sont partis. Et un de mes confrères avait déjeuné avec Daniel en disant pars avant qu'il soit trop tard, tout le monde s'en va, tu ne vas pas être le dernier à partir. Et Daniel lui a répondu, ah bon, quoi? Je serai tout seul dans cette maison? Gallimard, pour moi, tout seul, et tu voudrais que je m'en aille? Il n'en est pas question.
Antoine, est-ce que vous pouvez, chacun d'entre vous, donner votre sentiment sur une question qui a déjà été évoquée par René, puis par Cécilia et Helga, c'est-à-dire le paysage, je dirais, du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle artistique aujourd'hui. Il existe une sorte de tendance aussi pour certains auteurs, par exemple, à considérer qu'ils peuvent donc se passer de l'éditeur et notamment, je dirais, prendre pour eux tout seuls le droit d'auteur, le revenu du droit d'auteur. Il existe aussi une tendance à dire le droit d'auteur n'est pas le même et les contrats entre éditeurs et auteurs ne doivent pas être les mêmes s'agissant du numérique et s'agissant du physique. Est-ce que tu peux dire un peu quel est ton sentiment là-dessus, et ce qui veut dire aussi quel est au milieu de tout ça entre l'auteur, l'éditeur et le lecteur, le rôle de la librairie aujourd'hui? C'est par ça qu'on a commencé avec Ursula et Val, mais je crois que c'est extrêmement important.
Tu as raison de nous ramener au sérieux, cher Jacques. C'est une large question de considérer si notre socle de propriété intellectuelle, notre loi de 57 doit toujours être appliquée, si elle doit être façonnée, et comment elle est confrontée à une réglementation européenne sur la création et sur les marchés. Je pense que aujourd'hui, pour moi, notre contrat d'édition et la propriété intellectuelle a fait ses preuves depuis longtemps. Il y a des aménagements parfois nécessaires, mais elle montre, ce socle montre sa capacité à pouvoir aborder tant les marchés traditionnels que les nouveaux marchés. Ce contradiction, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois qui règle des droits de propriété intellectuelle sur le plan patrimonial et sur le plan moral, avec une série d'examens sur la façon dont un éditeur exploite le livre, la façon dont il doit rendre compte à l'auteur des ventes, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a eu des examens successifs, d'ailleurs, par les parlementaires français, qui ont parfois modifié certaines choses. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui est ouverte sur concernant la gestion des œuvres dites indisponibles sous droit du XXe siècle, qui devraient être examinées par le parlementaire français pour introduire la notion de gestion collective. Je pense que cette notion de gestion collective est tout à fait intéressante dans des cas très appropriés, très ajustés, que ce soit en particulier les œuvres indisponibles, qui viennent d'ailleurs alimenter Gallica et Europeana. Nous sommes tout à fait pour. Je pense que notre loi, donc, qui nous permet à la fois d'être compétitifs dans nos entreprises, parce qu'elle nous donne de la durée pour exploiter les œuvres. Mon grand-père avait signé un contrat avec Belle du Seigneur de Cohen en 34, et le livre est sorti en 1968. Donc on a besoin d'une durée, à la fois dans la gestion, dans l'attente aussi, et dans un financement, et aussi dans un espace. On parle du numérique. Juste, je fais entre guillemets, les éditeurs n'ont pas peur du numérique. Ce que nous craignons, c'est les positions dominantes. Mais le numérique, bravo, au contraire, ça fait faire des économies en composition, en changement de texte. On est tout à fait pour le numérique. Les éditeurs ont fait des sites, travaillent avec les réseaux sociaux. Je veux dire, ce n'est pas un problème pour nous. Notre problème, c'est que des opérateurs, certains puissent appréhender toutes les valeurs de la chaîne du livre. Mais ce n'est pas le numérique en soi. Je veux dire, quand si vous avez pour rien un contenu ou pour rien un service, ben ce n'est pas justifié. Donc ce que nous souhaitons, c'est effectivement qu'il y ait aussi, dans le cadre de cette propriété intellectuelle, un regard neuf qui soit porté sur la gestion du numérique. Mais pour nous, la gestion du numérique, c'est une exploitation, comme il y a eu l'exploitation dans d'autres aspects du droit de la propriété intellectuelle. Je pense que ce qui nous importe, c'est vraiment de pouvoir avoir à la fois un temps pour nous et un espace qui nous permette d'exploiter sous différentes formes, toujours en liaison avec l'auteur et en accord avec son droit moral. Lorsque nous avons eu, par exemple, un contentieux avec Google, nous n'étions pas d'accord sur une numérisation. Chacun aussi a son esprit des lois. Il y a d'un côté le fair use américain, puis il y a un droit de la propriété intellectuelle européen beaucoup plus stricto sensu. Bon, mais finalement, aujourd'hui, je veux dire, il y a les entreprises sont prêts à se rapprocher. Moi, je m'en réjouis que Google vienne aujourd'hui dire, écoutez, non, on fait une paix et au contraire, on numérisera par rapport à vos accords. Il y a eu comme ça des accords avec Hachette. C'est très bien. Je veux dire, on ne peut qu'encourager les choses qui vont dans ce sens-là. Je vous dis, notre souci, c'est vraiment les positions dominantes. Je veux dire, l'éditeur, l'auteur, c'est comme des entreprises extrêmement fragiles. Et le fait que, voilà, on est comme des galéristes, on a besoin d'une certaine sécurisation sur la nécessité de trouver des rapports avec les libraires, des rapports avec les auteurs, et que ce ne soient pas toutes les valeurs qui soient appréhendées. Notre crainte, c'est que par rapport, et tu le disais, Jacques, par rapport aux États-Unis ou en Corée, où là, par exemple, il y a une réglementation fiscale quasi nulle pour les livres numériques, nous, dans notre compétitivité, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal non plus qu'il y ait des distorsions, je veux dire, dans des taux de TVA, même dans l'Europe. Il faut que chacun ait une certaine égalité des chances. Donc, ce contrat de propriété intellectuelle, c'est la base. C'est la base. Et évidemment, je veux dire, on n'a pas la même approche, mais je pense qu'on ne peut pas, au nom d'une liberté, en tuer une autre. Et la liberté de création existe aussi, elle a besoin, on l'a dit tous ici, on est d'accord, je vois et j'en suis heureux, que la création doit être rémunérée. C'est vrai que quand il y a d'autres modèles, notamment certains opérateurs qui vivent soit sur la gratuité, soit sur la publicité, ce n'est pas pour nous une solution. Si aussi on se dit, on revient tout à fait en arrière avant bon marché et que ça doit être ou l'État ou des généreux mécènes qui viennent financer les auteurs, bon, évidemment les éditeurs disparaîtront ou on sera les secrétaires des généreux mécènes, mais c'est à mon avis, ça serait aussi une belle marche en arrière.
Daniel, quel est le point de vue de l'auteur? Raphaël a dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas, comme dans les temps anciens, dépendre des princes, ni dépendre aujourd'hui d'une administration. Je pense que Daniel Pénac non plus.
Oui, non, mais c'est aussi ce rapport au concept même de gratuité. Antoine et moi, nous nous sommes opposés il y a quelques années sur le thème de la gratuité du prêt en bibliothèque. Antoine et Jérôme Lindon et d'autres éditeurs avaient élaboré un texte au terme duquel ils exigeaient que chaque emprunteur paye à l'emprunt. Moi, je m'étais insurgé contre cette idée pour deux raisons. La première, c'est que l'entrée à la bibliothèque était déjà payée par les impôts locaux. Et la seconde, qu'elle était également payée par le droit d'inscription à la dite bibliothèque et que, tondre l'œuf, ça commençait à bien faire. Donc voilà, on a eu une véritable discussion sur ce point. Reste que la gratuité absolue qui menace apparemment, via la disparition d'ailleurs aussi des éditeurs, m'effraie absolument. Et le fantôme que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est le désastre absolu de l'univers du disque, en tout cas le désastre des personnes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette façon de se servir, tous azimuts, de la musique sans débourser un sou? Mais ça veut dire très concrètement que quantité de compositeurs ne peuvent plus composer. Et ils ne peuvent plus composer, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des tempéraments de battleurs. Ils ne sont pas des comédiens, ils ne sont pas des clowns, ils ne sont pas des chanteurs. Et ceux qui ne peuvent pas monter sur scène pour y gagner aujourd'hui de quoi vivre crèvent littéralement de faim. Donc ça, c'est tout bêtement, le fantôme ce que je redoute pour l'avenir du livre, si cette menace pèse sur lui.
Merci beaucoup. Je pense que oui, vas-y, une petite question. Et puis, on a tout à fait introduit la commission et le commissaire au marché intérieur en charge du droit d'auteur, justement sur ce sujet, parce qu'il va parler exactement des sujets dont Antoine a parlé tout à l'heure, notamment les œuvres orphelines, par exemple. Oui, petite question. Pardon.
Bonjour, Sophie Oconi, parlementaire. Moi, je dois dire que j'apprécie beaucoup la formule de cette audition, très intéressante, et je remercie Madame McDermid qui me fait rêver, puisque vous dites que votre postulat est que l'état psychiatrique de l'auteur est indéniable, donc ça me donne un peu d'espoir pour l'avenir. Merci. Moi, je voudrais vous indiquer combien je m'aperçois que le livre numérique permet de redonner le goût de la lecture à nos jeunes, à nos enfants. Le côté dynamique et les nouvelles technologies font que nos jeunes se remettent à lire, et c'est quelque chose qu'il faut, à mon sens, prendre en considération. Et donc, il est important que, effectivement, nous protégions les auteurs, et que, au nom d'une liberté, nous n'en tuions pas une autre, mais que nous mettions tout en œuvre, alors là, les parlementaires, que tout soit mis en œuvre pour protéger et pour éviter ce désastre des disques dont vous parliez tout à l'heure, de la musique plutôt, pour arriver à la fois à protéger cet art qu'est l'écriture, en même temps que de protéger ce nouveau marché que représente le goût de la lecture pour nos jeunes qui, c'est évident, s'y intéressent de plus en plus. Merci.
C'est exactement ça, Sophie. Oui, monsieur.
Hello, my name is Vincent Eaton. I do not belong to the Parliament. I got invited through a secretary general here who used to be in a writer's workshop. I'm an author, and I'm also a publisher, and sometimes I'm thinking I'm hearing a lot of 19th or 20th century thinking here. I've been published by Viking Penguin as a novelist. I've had about five different agents hawking my work over the years, so finally I decided to take it over myself and publish it through legitimate channels on my own. And right now there is no giveaway. Everyone's worried about giveaway. It's called interacting with the audience, interacting with your people. I have 5 books published now. I give one of them away. People come and take that, and they read it, and they like it, and they blog about it, or they review it, and 20,000 people come next day on my site and start downloading and buying my books. It's interacting. It's not giving away. There is a sharing, but you have to communicate with the people who are out there. It was just like the catastrophe that happened to the music world 10 years ago. It's happening now to publishers. It's just the people, what people call the market, saying this is how we want it delivered. They are driving this, not downward. What is called out there in internet land, the elite, the people who are the gatekeepers. People are coming from the internet saying, this is how we want things. Pay attention. Otherwise, we will go around you. And I'm just encountering this on many blogs that I'm following, many authors I follow, that is happening day after day. So it's like Marshall McLuhan said, we're going to the future looking in a rear view mirror. The people are telling how they want it. It's for the companies to adapt to the market.
On va essayer de tenir notre horaire, et pour ça, avant de donner la parole à Kirsten Jorna, le chef adjoint de cabinet de Michel Barnier, je vais demander à Antoine Aubert de Google, puisque Daniel Pédac a dit que pour la première fois il le rencontrait, son opinion. Est-ce que en quelques mots, nous n'allons pas naturellement refaire le débat, mais en quelques mots, parce que je pense que puisqu'on a parlé de Google, je pense que Google étant présent physiquement, justement, il peut s'exprimer.
Merci. Pour répondre à M. Pénac, j'ai été très troublé par son intervention parce que je m'appelle Antoine aussi. Donc chaque fois que vous avez mentionné Antoine, je me demandais si vous vous adressiez à moi ou à M. Gallimard. Je suis enchanté, bien sûr, d'être la première incarnation physique de Google que vous rencontrez. Comme M. Toubon l'a dit, il y a eu beaucoup de débats sur Google et je pense qu'il y a un temps pour l'écoute et il y a un temps pour parler. Et aujourd'hui, je suis venu pour écouter et donc je ne vais pas faire une longue intervention. Juste pour dire que, comme l'a mentionné M. Gallimard, Google est parfaitement heureux et engagé pour travailler avec les éditeurs sur la façon de valoriser au mieux les droits d'auteur et le livre en ligne et que c'est le chemin que nous poursuivons à l'heure actuelle avec toutes sortes d'accords qui ont été passés en France et d'autres accords qui sont passés dans d'autres pays et que c'est la ligne que nous suivons. Et encore une fois, on ne voyons pas du tout d'opposition entre le monde du numérique et le monde de l'édition. Je pense qu'il y a beaucoup de speakers pendant ce meeting qui ont mentionné les synergies possibles entre ces deux mondes. Et comme un des acteurs du monde de l'Internet, nous sommes bien sûr totalement engagés sur créer ce genre de synergie et travailler à la création de ce genre de synergie. Merci.
Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole, non pas à Michel Barnier. Michel Barnier, c'est ce que je disais tout à l'heure, la crise, la dette, la crise, les banques. Il est, dans sa qualité de commissaire au marché intérieur, en charge des services, et notamment des services financiers. Il est à Francfort aujourd'hui, malheureusement, au siège de la BCE. Et donc, c'est Kirsten Jorna, son chef adjoint de cabinet, grande spécialiste de ces questions, qui va intervenir maintenant en son nom sur tous ces sujets, notamment de la propriété intellectuelle des œuvres orphelines, tous les projets que Michel Barnier, dans son agenda qu'il a publié au printemps dernier, est en train d'essayer de mettre en œuvre, en particulier, naturellement, avec le concours du Parlement. Je voudrais saluer la présence de M. Berlinguer parmi nous aujourd'hui dans ce débat. Kirsten.
Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs les parlementaires et merci aussi Mesdames et Messieurs pour votre compréhension. Je ne suis évidemment pas Michel Barnier, ni sa version digitale, mais nous avions espéré jusqu'hier en fait qu'il pourrait assister à la fin de cette rencontre, mais malheureusement il a dû rester. Donc ce que je me propose c'est de présenter ce qu'il aurait voulu dire. Et c'est vrai, il est fort occupé par la banque, la crise et la dette, mais il est aussi très convaincu que la propriété intellectuelle, dans son ensemble, droit d'auteur et marque, brevet, contrefaçon, est un pilier de son mandat, un pilier de son portefeuille, et il y consacre beaucoup d'attention. Les discussions aujourd'hui ont été très intéressantes et on voit très bien que l'élargissement, je dirais plus que la transition, je dirais l'élargissement des modes traditionnels d'écriture, de lecture, de nouveaux formats, d'édition, s'annonce riche quand on voit vers le digital. Le tableau est peint. Aujourd'hui, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, du temps de Gutenberg déjà, c'était le cas pour vous. Aujourd'hui, encore une fois, la technologie révolutionne notre façon de créer, de faire des affaires, de communiquer, de consommer et de divertir, nous divertir. Et la transition des technologies, surtout de nouveau, pendant les 10 à 15 ans passés, ont eu un impact profond sur l'ensemble de nous tous, pas uniquement le secteur de l'édition. Les habitudes ont changé et aujourd'hui, le citoyen s'attend à pouvoir acquérir du contenu créatif, je m'excuse pour le mot, et en profiter n'importe où et n'importe quand. Cette évolution, évidemment, et vous l'avez dépeint dans vos dialogues, concerne aussi le secteur de l'édition. Vous avez relevé un certain nombre d'aspects positifs de ça. L'Internet vous permet de présenter vos œuvres et vos services à un public toujours plus nombreux. Il offre aux auteurs et aux éditeurs la possibilité de diversifier les filières de distribution et les types de services offerts. Il élargit le choix des lecteurs. Il vous permet de donner une nouvelle vie à des livres qui étaient en sommeil depuis des années parce que leur coût de réimpression était trop important. Et il renouvelle aussi l'intérêt pour certains livres parce qu'il donne un accès à l'ensemble d'informations et éveille la curiosité du public. Vous l'avez dit, certains, monsieur Strin notamment, que la demande pour les livres électroniques grandit, non seulement aux États-Unis, mais maintenant aussi en Europe. En principe, c'est une bonne nouvelle. Personne n'a contredit pour ce secteur qui est une pierre angulaire de l'industrie de la création européenne. Évidemment, quand on parle de l'édition, et je vous remercie beaucoup pour cet événement, l'Association des éditeurs, quand on parle d'édition, on ne parle pas d'éditeur, on parle du couple. Et vous avez cité « die beste Koalition », disait M. Seligman, la liaison officielle, M. Penek. En fait, il s'agit d'un binôme ou d'une symbiose qui est le pilier de ce secteur. Madame Wall a dit que c'était « il me protège, il m'inspire et il me challenge, mon éditeur ». Je ne crois pas que ce soit un regard dans le rétroviseur, comme disait monsieur, par rapport à ce secteur. Je crois que les discussions que vous avez eues ici en couple éditeur-auteur ont montré que c'est le gage du futur, cette relation. Bien sûr, vos rôles sont différents. Les uns créent, les autres investissent, pour être très très schématique, dans la création. Mais vous faites partie d'un ensemble. Et l'Internet ne fait que renforcer ce couple. D'abord, les éditeurs conservent leur rôle fondamental de découvreur de nouveaux talents et auteurs, de relecteurs et de vérificateurs de la qualité des produits mis sur le marché, que ce soit sur papier ou sous forme électronique. Ensuite, le numérique permet aussi aux éditeurs et aux auteurs d'expérimenter de nouveaux services et d'exploiter le potentiel d'Internet pour promouvoir des œuvres littéraires de leurs auteurs sur les plateformes et les services innovants. Monsieur Strin avait souligné ça. Mesdames et messieurs, toutes les révolutions sont porteuses d'un mélange d'opportunités et défis auxquels il faut s'adapter. Et l'entrée du secteur de l'édition dans le numérique n'en fait pas exception. J'ai parlé des opportunités et vous avez parlé des opportunités. Les défis, comme nous le voyons, je pourrais citer trois. C'est d'abord la qualité des produits qui ne doit pas être et des œuvres que vous créez qui ne doivent pas être compromises. Deuxième défi, c'est celui de la rémunération qui doit être et rester suffisant pour compenser d'un part la baisse dans les ventes des livres physiques, mais elle doit aussi permettre aux auteurs et aux éditeurs de se lancer dans de nouveaux projets. C'est ça la catastrophe de la musique, que nous sommes sur un turning point pour le moment. La capacité de lancer des nouveaux projets. Et surtout, et vous avez tous souligné, le défi du piratage ou du vol digital, comme vous l'avez appelé. Il ne doit pas porter atteinte à votre secteur, à vos projets, comme nous le voyons malheureusement pour le moment pour la musique. Michel Barnier est très, très clairement et pleinement conscient de ce défi. C'est pourquoi il croit, lui, très fermement dans une politique solide en matière de droits d'auteur, qui est pour lui un levier important pour assurer le dynamisme et la pérennité de l'industrie de l'édition et de la création, et aussi de ses acteurs principaux, les auteurs et les éditeurs. cet engagement s'est manifesté dans la stratégie que nous avons publiée sur la propriété intellectuelle. C'est la première fois que l'Union a publié une stratégie globale sur la propriété intellectuelle, qui ne couvre pas uniquement le droit d'auteur, mais qui couvre aussi le droit des marques et qui couvre aussi les brevets. Pourquoi ? Parce que nous voulons montrer qu'il s'agit d'abord d'une propriété. C'est un droit exclusif, comme toute propriété. Et alors qu'aujourd'hui, pour les citoyens, c'est peut-être plus compréhensible que leur médicament doit être protégé par un brevet, par une propriété intellectuelle, parce que sinon il n'y aura plus de recherche, c'est moins évident pour le droit d'auteur. Je ne sais plus qui disait que c'est l'auteur ohne das schlechte Gewissen. Et notre premier pas était de mettre tout ça dans un contexte et d'expliquer, et des événements comme nous l'avons ici sont très importants, d'expliquer qu'il s'agit tout d'abord de propriété. Après, il y a dans le cadre de cette stratégie plusieurs propositions qui vous concernent plus particulièrement. J'aimerais bien citer trois parmi eux. La première, c'est une proposition législative sur les œuvres orphelines qui a été adoptée en mai et qui est maintenant en discussion dans les deux branches du législateur. Le but est de permettre aux bibliothèques de pouvoir digitaliser et de mettre à disposition les œuvres qu'ils ont dans leur bibliothèque, mais pour lesquelles ils ne trouvent plus l'auteur pour demander sa permission. Nous avons cru important de légiférer sur cet aspect-là afin de rassurer et d'avoir des conditions et sécurité suffisantes pour les auteurs et les éditeurs. Un deuxième point que j'aimerais citer, hier seulement, des éditeurs et des auteurs et des librairies ont signé un Memorandum of Understanding concernant les livres qui ne sont plus dans le commerce, mais qui sont dans les bibliothèques. Et le secteur, les plus concernés, n'ont pas eu besoin du législateur de leur dire ce qu'il fallait faire. Ils se sont mis ensemble pour avoir des key principles qui leur permet de trouver des accords par après pour justement permettre la digitalisation et la diffusion d'œuvres qui sont trop chères pour être réimprimées. C'est important. Et je cite ces deux exemples parce que dans un premier, il a fallu le législateur, dans un deuxième, c'est le secteur lui-même. Et enfin, je vais aussi citer tout un paquet d'initiatives pour s'attaquer au vol sur l'Internet, au vol des créations, au vol des œuvres. Nous pensons notamment à une révision de l'arsenal juridique. Mais nous pensons aussi qu'il est très important d'expliquer avec nous, à nos côtés, pourquoi il faut protéger le droit d'auteur, pourquoi c'est une propriété comme toutes les autres, pourquoi l'accès, sharing, sans retourner, n'est pas acceptable. Vos efforts créatifs et vos investissements dans le domaine littéraire, scientifique, technique et culturel sont très importants pour la poursuite du développement économique de l'Europe et pour sa diversité linguistique et culturelle. Ce n'est bien sûr pas nous, la Commission ou le législateur, qui a décidé comment vous devez exploiter vos créations ou quel modèle économique vous devez choisir. Et je suis assez d'accord, Monsieur Gallimard, que c'est vos contrats. C'est vos contrats que vous devez voir et adapter, et c'est dans un premier temps, c'est le propriétaire qui doit choisir comment gérer les choses. Ce que nous essayons de faire, ce que Michel Barnier veut faire, c'est de donner une sécurité juridique autour de vos modèles économiques, autour de vos modèles commerciaux, pour garantir que vous ne soyez pas privé du fruit de votre création, qu'elle soit ou de votre investissement, qu'il soit intellectuel ou financier. Le mot-clé, c'est la confiance. C'est la confiance que vous devez avoir pour continuer à créer, vous devez avoir pour trouver des nouveaux modèles commerciaux qu'on ne vous vole pas, mais aussi la confiance des consommateurs, de vos lecteurs qui font confiance au couple éditeur ou auteur par rapport à la qualité de ce qu'ils aimeraient lire. Michel Barnier, encore une fois, a beaucoup regretté ne pas être parmi nous. Je vais lui expliquer, lui rapporter les débats qui sont aujourd'hui. Et j'espère beaucoup que ce ne sera pas le dernier événement de ce type et que nous pourrions travailler ensemble aussi par rapport à l'explication lorsque les différentes initiatives aussi législatives vont prendre leur chemin dans les institutions. Merci beaucoup.
Je remercie beaucoup Kirsten c'est Marielle Gallo qui va avoir le mot de la fin. Je voudrais saluer la présence parmi nous de Jean-Paul Gauzès de la Commission économique et monétaire, grand spécialiste de ces questions aussi, et dire que je vais m'esquiver pour aller participer justement au collège de cette haute autorité qui s'efforce de protéger la propriété intellectuelle en France et dont je fais partie. Donc je vais essayer de ne pas manquer mon Thalys parce que nous nous occupons justement de l'économie de la filière musicale aujourd'hui et, comme on l'a dit tout à l'heure, d'essayer de ne pas reproduire pour le livre les mêmes erreurs que celles qui ont été faites pour la musique. J'ai été très sensible à la présence ici de nos trois couples d'éditeurs et d'auteurs. Je pense qu'ils vous ont dit les choses à la fois avec leur cerveau et leur cœur, et même quelquefois leur tripes, et je crois que c'est de ça qu'il s'agit, à travers l'écrit, à travers la littérature et l'industrie de l'édition. C'est toute la vie, en fait, qui est en cause. Et cette vie, qu'elle passe par des vecteurs physiques ou des vecteurs dématérialisés, c'est notre vie. C'est pour ça que je crois que c'est tout à fait essentiel. Merci beaucoup d'avoir participé tous à ce débat. Et c'est Marielle qui en a été l'instigateur et qui va maintenant le conclure. Merci aussi à Anne Bergman et à la Fédération européenne des éditeurs. Nous sommes ici à un échelon européen. Toutes ces questions, pas seulement la fiscalité, sont des questions qui se posent au niveau européen. On sait très bien que l'Europe, c'est très difficile, mais c'est absolument nécessaire, y compris pour l'édition des livres. À toi, Marielle.
Merci, Jacques. Merci d'avoir été le modérateur dans ce colloque avec les trois couples éditeurs-auteurs que nous avons accueillis aujourd'hui. Je ne vais pas être longue et j'indique à mes collègues que les auteurs dédicaceront leurs livres. Donc je m'impartis 5 minutes parce qu'ensuite ils doivent faire une visite. C'est Diana Wallis, notre collègue, qui va venir, je crois, les chercher à 15h15. Et eux non plus ne veulent pas rater leur Thalys. Donc nous allons faire ça dans les temps. Je serai donc très brève pour conclure ce colloque, cette conférence, cet événement, comme on dit ici tout est événement. Donc je suis rassurée, en tout cas c'est le premier point par rapport aux questions que je posais en introduction, je suis rassurée sur le métier d'éditeur et attention à l'ère numérique, parce que ce que j'ai entendu des auteurs, c'est que leur demande, leur besoin d'éditeur est encore plus fort finalement à l'ère numérique qu'avant. Et le mot qui est revenu dans la bouche de chacun de nos auteurs, c'était le mot de protection. Hein, j'ai entendu Val McDermid parler de la solitude de l'écrivain sans même parler de sa pathologie, car sinon nous sommes tous fous, mais c'est possible.
et c'est pas très grave. Je l'ai entendu parler de la solitude de l'écrivain, et ça, c'est vrai qu'à l'ère numérique, ça ne change pas. Et le besoin de protection de l'éditeur, y compris de la protection juridique, qui évidemment est très importante à l'ère numérique. J'ai entendu également l'éditeur anglais parler des charmes de la librairie, et ça, c'est absolument certain. La conclusion à laquelle j'arriverai probablement, c'est que le livre numérique et le livre papier doivent cohabiter. J'ai entendu l'auteur, je crois que c'est M. Seligman, oui c'est ça, qui indiquait que Van Gogh ne savait pas vendre ses tableaux, et c'est vrai que l'éditeur est là non seulement pour découvrir l'auteur, non seulement pour l'accompagner dans son travail littéraire, mais également pour la promotion et ensuite la protection, mais la promotion de son livre et la diffusion, autant de tâches que les auteurs sont complètement incapables de faire eux-mêmes. J'ai enfin entendu Daniel Pennac avec une éloquence extraordinaire parler de cette relation qui est effectivement très très particulière entre l'auteur et l'éditeur, mais qui est d'abord une relation financière. Et je crois que le souhait de Jacques Toubon, c'était aussi qu'on envisage aujourd'hui les questions, l'économie du livre, cette question de la TVA qui nous tient tous à cœur, et il ne faut pas négliger l'aspect financier de cette relation. Mais c'est une relation affective, je crois qu'on a raison de les appeler couples, puisqu'on sent des liens très forts entre eux, c'est une relation intellectuelle, et comme je vous le disais, la conclusion du métier d'éditeur, de l'édition à l'ère numérique, c'est qu'il faut évidemment que le livre papier cohabite avec le livre numérique, mais il faut que nous nous défendions sur le plan du livre numérique, parce que sinon, ce sera comme pour la musique, nous ne serons plus qu'un marché pour les Américains, c'est quand même ça l'enjeu, hein, puisqu'encore une fois, pas de TVA sur les livres, ni aux États-Unis, ni au Brésil, donc je veux dire, il faut aussi un peu défendre notre territoire et nos livres numériques, mais avec la réserve que j'adresse tout particulièrement à Sophie, qui est mère de famille, comme beaucoup d'entre nous, il faut savoir que la lecture sur écran ne fait pas appel aux mêmes parties du cerveau et ne mobilise pas la mémoire de la même manière. Ce qui signifie qu'il ne faudrait pas que nos chères têtes blondes ne passent leur temps sur des écrans sans jamais apprendre à lire des livres papier. Ça, je crois que c'est important de le souligner, mais ça a été véritablement démontré scientifiquement. Et enfin, je terminerai en disant que j'ai été, surtout je suis en charge de plusieurs de ces dossiers, particulièrement intéressée d'entendre ces dialogues auteurs-éditeurs, parce que nous, législateurs européens, nous aussi, nous connaissons la solitude et nous avons besoin d'être aidés par ceux qui sont dans le secteur dont on se préoccupe, et là, ce sont les industries culturelles et créatives. Et donc, comme Kirstine vous l'a dit, il y a en chantier les œuvres orphelines, il va y avoir bientôt en chantier les sociétés de gestion collective. Il y a la directive enforcement, enfin mise en œuvre de la protection des droits de propriété intellectuelle. Beaucoup de discussions entre nous. Nous recherchons toujours, entre tous les groupes politiques, nous essayons toujours de rechercher un consensus, ce qui est extrêmement difficile, mais finalement on peut y arriver. Et je crois que le livre, de toute façon, ça doit être une ambition transversale entre tous les groupes politiques et qu'on doit vraiment pouvoir se retrouver pour le défendre, aussi bien papier que numérique. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être venu et maintenant je vous lâche devant vos admirateurs. Et puisque les auteurs vont pouvoir dédicacer.
Thank you.